Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Si un jour quelqu'un cherche à traduire en un seul mot toute la richesse d'un imaginaire sans limite, capable de captiver plusieurs générations de lecteurs sur les 5 continents, peut-être choisira-t-il un mot de 7 lettres, Tolkien. C'est que cet écrivain britannique, éminent professeur à la prestigieuse université d'Oxford, est un extraordinaire inventeur de mondes. Réuni à la Bibliothèque nationale de France, le temps d'une exposition sur plus de 1000 mètres carrés, quelques 300 pièces nous permettent d'appréhender avec passion, érudition et précision les paysages, les peuples, les langues, l'architecture, les arts, l'histoire, la culture, bref, tout ce qui est sorti du cerveau, de la plume et du pinceau de cette grande figure du XXe siècle, inventeur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, mais dont l'œuvre est bien plus ample encore. L'exposition Tolkien, Voyage en Terre du Milieu, c'est donc à la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, c'est jusqu'au 16 février 2020, et vous m'en direz des nouvelles. Et avec nous les deux commissaires de cette exposition, bonjour Vincent Ferré.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature générale et comparée à l'université Paris-Est-Créteil. Bonjour Frédéric Manfrin.
Bonjour.
Conservateur en chef au département philosophie, histoire et sciences de l'homme à la BNF. C'est la première fois, hein, Frédéric Manfrin, que la BNF présente une exposition consacrée à un auteur étranger. Pourquoi maintenant et pourquoi Tolkien ?
J'ai envie de vous répondre pourquoi pas déjà, parce que ça fait un moment que la Bibliothèque nationale fait des expos littéraires. Grande tradition, on a fait Zola, on a fait Victor Hugo, et on avait envie d'abord de s'intéresser à un auteur du XXe siècle. Et la figure de Tolkien est arrivée, j'allais dire, assez vite, un peu par des contacts, mais Vincent en reparlera avec notamment la Bodleian Library d'Oxford, mais aussi parce que c'est vraiment une figure très particulière de la littérature mondiale du XXe siècle, un peu un inclassable, peut-être un incompris, en France particulièrement, et ça nous tenait vraiment à cœur de présenter cette œuvre monde et cet auteur trop méconnu des Français.
Alors Tolkien, on le connaît essentiellement par Le Hobbit, par Le Seigneur des Anneaux. Le cinéma a évidemment fait énormément aussi pour propager la culture Tolkien dans le grand public. Mais l'idée de l'exposition, c'est aussi d'aller au-delà, de savoir ce que Tolkien a imaginé par-delà ces deux œuvres phares.
Tout à fait. Le propos, c'est vraiment de faire découvrir à la fois à un public qui ne connaît pas l'œuvre, mais sans oublier les hyper fans, puisque Tolkien a cette chance d'avoir...
Et il y en a, et qui se pressent tous les jours à la BNF.
Tout à fait. Donc il fallait que, pour l'exposition, on permette à tout le monde de découvrir, certes, de trouver ses points de repère avec Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, mais aussi de découvrir la grande variété de l'œuvre de Tolkien, que ce soit le travail de l'universitaire d'Oxford, mais aussi l'immense talent de conteur dans d'autres contes et légendes que Tolkien a pu rédiger.
Alors Vincent Ferré, le parcours de l'exposition a été conçu comme un voyage, hein, elle est d'ailleurs intitulée, je le rappelle, Voyage en Terre du Milieu. Pourquoi cette approche géographique et pas une approche plus narrative par le biais des personnages, par exemple ?
La décision a été prise par toute l'équipe travaillant sur la BNF, 7 personnes au total, de proposer aux visiteurs de découvrir ce qui fait le propre de l'œuvre de Tolkien. Ce qu'on retient le plus quand on parle de son œuvre, c'est le monde qui sert de cadre, de décor au Seigneur des Anneaux, au Hobbit, mais aussi à l'œuvre qu'il a occupée toute sa vie, le Silmarillion, qu'il n'a pas réussi à faire paraître avant sa mort en 1973. Donc présenter les lieux, c'était montrer la marque vraiment indélébile que Tolkien a laissée dans l'histoire de la littérature du XXe siècle, au-delà du genre de la fantaisie, qui, rappelons-le, est un genre de l'imaginaire voisin de la science-fiction. On trouve, par exemple, dans Harry Potter, dans Game of Thrones, des descendants de Tolkien. Mais la fantaisie, c'est un genre de l'imaginaire dans lequel on voit une histoire se dérouler dans un monde marqué par le merveilleux et le rapport au passé, en particulier le Moyen-Âge. Tolkien n'a pas inventé la fantaisie, mais il a modernisé une recette qu'il avait héritée de ses prédécesseurs au XIXe siècle, anglais.
Alors la fantaisie, justement, le conte merveilleux, la science-fiction, on est quand même dans un auteur très hybride, là, inclassable, disait Frédéric Manfrin il y a un instant. C'est quoi le style, le genre de Tolkien ?
Oui, vous avez raison, c'est un auteur aux multiples facettes. Il est impossible à cerner et beaucoup de visiteurs sont stupéfaits de voir qu'un seul homme a réussi à faire autant dans sa vie, même si une grande partie de ses textes a été publiée après sa disparition par Christopher Tolkien, son fils, au cours de 45 années de travail. Parce que Tolkien a laissé des montagnes de manuscrits à sa mort, de récits parfois achevés, de récits inachevés, de livres qui étaient tout prêts, mais qu'il n'avait pas fait paraître. Donc Tolkien, c'est ce mélange un petit peu à la Umberto Eco entre un érudit spécialiste de langue et littérature médiévale à Oxford, mais un philologue qui travaillait sur des textes médiévaux en même temps qu'il aimait profondément les langues. Il connaissait de nombreuses langues vivantes contemporaines, européennes, mais sa bibliothèque montre qu'il avait collectionné les grammaires, les lexiques du monde entier. Et en même temps, quelqu'un qui a inventé des langues, c'est une de ses marques, avec l'invention d'un monde, il y a l'invention de langue et l'invention d'histoire. Il a, à son tour, créé des langues par goût des mots.
Alors justement, dans l'exposition, le public peut lire des passages célèbres du Hobbit, du Seigneur des Anneaux. C'est évidemment extrêmement émouvant de voir les manuscrits originaux. Et puis, il y a aussi, parmi tous les textes que l'on peut découvrir, justement, vous parliez des langues, des poèmes en langue elfique. Alors vous le disiez à l'instant, Vincent Ferré, Tolkien était philologue, et donc il étudiait les langues anciennes. Il était passionné par les langues au point d'en inventer. Alors Amélie Beaucourt a mené l'enquête en remontant ses traces.
Cette langue curieuse que vous entendez s'appelle le Quenya, l'une des langues parlées par les elfes dans l'œuvre de Tolkien, qui lit lui-même un poème qu'il a écrit dans cette langue imaginaire. Et il en existe plusieurs comme celle-ci, à tel point que les passionnés de linguistique, comme le vidéaste Monté, s'y intéressent de près. Sur sa chaîne YouTube Linguisticae, il y consacre toute une vidéo.
Tolkien, il aurait inventé une quinzaine de langues. Après, c'est difficile d'estimer combien il en a inventé exactement, tout simplement parce que elles sont pas toutes aussi complètes. Par exemple, on a le Kuzdul, qui est la langue des nains, qui est basée sur des langues sémitiques, donc de l'arabe, de l'hébreu, qui existe d'ailleurs aussi sous plusieurs dialectes différents, en fonction des différents groupes nains et des différents âges. On sait qu'il existe des langues pour les orques, on sait qu'ils ont différents dialectes tribaux en fonction de leur tribu. On n'a pas vraiment d'éléments de grammaire, on n'a même pas d'ailleurs de noms pour ces différents dialectes, alors que le Quenya et le Sindarin, qui sont les deux langues elfiques, celles-là, c'est vraiment celles qui ressortent le plus et celles qui sont les plus connues.
Deux langues elfiques qui n'ont ni les mêmes usages, ni les mêmes inspirations.
Le Quenya est avant tout d'inspiration germanique, tout d'abord, parce que ça, Tolkien était spécialiste des langues germaniques, et donc ça, on peut pas y couper, mais aussi et surtout du finnois, parce que c'était une langue qui avait passionné Tolkien. Et d'ailleurs, c'est une langue qui passionne beaucoup de créateurs de langues, qu'on peut entendre dans Star Wars, si jamais vous tendez l'oreille pendant la menace fantôme. Et de l'autre côté, on a le Sindarin qui, lui, est d'inspiration germanique aussi, évidemment, mais aussi d'inspiration galloise. Et là aussi, c'est tout à fait cohérent, puisque Tolkien s'était intéressé à cette langue, et étant lui-même britannique, c'est tout à fait logique qu'il se soit inspiré des langues parlées dans sa région, finalement.
L'étude des langues a toujours fasciné Tolkien, à tel point qu'en construire de toutes pièces est devenu un passe-temps pour lui, comme il le dit lui-même lors d'une conférence donnée à Oxford en 1930. Pour Marina Jagello, professeure à l'université Paris Diderot, les langues imaginées par Tolkien ne sont pas un simple prétexte pour rendre son univers plus crédible, bien au contraire.
Tolkien a créé ces langues bien avant d'écrire son œuvre de fiction. C'est seulement après qu'il a souhaité leur donner des locuteurs, c'est-à-dire les mettre en action. Il a souhaité créer un univers où les personnages parleraient les différentes langues qu'il a créées.
Selon la chercheuse qui a étudié à la loupe les langues imaginaires, celles de Tolkien sont les plus abouties et les plus vraisemblables.
Il est allé très très loin dans la vraisemblance, allant jusqu'à créer des correspondances diachroniques, donc son évolution dans le temps, et en même temps, sur le plan synchronique, en mettant en évidence des relations entre des dialectes, c'est-à-dire des variations dans l'espace, comme on en connaît pour toutes les langues vivantes. Toutes les langues vivantes ont des variétés dialectales.
Parler, ami, et entrer. Quel est le mot elfique pour ami?
Mella. Tolkien a même été jusqu'à donner des indications sur la prononciation des mots, mais la langue qu'on entend dans l'adaptation cinématographique, elle, a dû être reconstituée par le linguiste américain David Salo pour combler les pièces manquantes du puzzle. Car malgré les nombreux dictionnaires et traducteurs en ligne alimentés par les fans comme par les professionnels, les langues tolkieniennes ont encore des secrets à dévoiler. Certains spécialistes s'appuient sur les écrits déjà disponibles pour étudier ou même enseigner ces langues, comme Édouard Closco, qui a publié une méthode pour apprendre le haut elfique. Mais d'autres, comme Damien Bador, expert lui aussi des langues de Tolkien, sont plus prudents. Il estime que seuls 50% des manuscrits concernant la grammaire de ces langues ont été publiés, une quantité insuffisante pour apprendre à parler comme un elfe gris.
Amélie Beaucourt pour VMDN. Alors visiblement, Vincent Ferré, il y a quand même beaucoup de mystères, beaucoup d'interrogations, beaucoup de débats hein, parmi les spécialistes des langues tolkieniennes.
On aimerait parler les langues elfiques, mais ça n'est pas possible.
C'est pas possible, vous ne le parlez pas, vous-même, tous les deux. Non, vous ne pouvez pas mener de véritables conversations.
Pas du tout, ça s'étudie. Il faut bien voir que chez Tolkien, il y a un équilibre, comme le dit bien Marina Yagello, entre l'invention, la rigueur et le plaisir esthétique. Donc je suis complètement du côté de Damien Bador, qui est vraiment le meilleur spécialiste français sur la question actuellement. On peut étudier les langues, on peut étudier l'évolution de ces langues, mais on ne peut pas les parler. Et il existe un dictionnaire elfique, si ça intéresse vos auditeurs, authentique, pour le coup, pas comme ceux vendus dans le commerce, sous la plume de Tolkien, dans La Route perdue, ça s'appelle les étymologies. C'est comme les mots latins, vous savez, les mots sont classés par racines elfiques,
oui.
Mais on peut donc étudier, c'est une ressource, ça n'est pas un bréviaire pour parler l'elfique.
Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à découvrir, des documents que l'on va peut-être pouvoir publié dans les années qui viennent.
La publication est en cours depuis des années par une équipe de chercheurs américains à qui Christopher Tolkien a confié la tâche de s'occuper du versant linguistique. Lui a publié une vingtaine de livres, des textes en prose, des textes en vers qui nous montrent l'évolution du Silmarillion. Il a publié de nombreux documents, des cartes, mais pour la partie proprement linguistique, il reste encore beaucoup de trésors à découvrir.
Donc Christopher, c'est le troisième fils de Tolkien, hein, Frédéric Manfrin.
Tout à fait.
Il a consacré une bonne partie de sa vie à publier justement les textes de son père, à défendre son œuvre. Sans lui, cette exposition n'aurait pas pu se tenir.
Ah, c'est évident. Sans lui, Tolkien a très peu publié de son vivant. Évidemment, Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, les pièces les plus connues, quelques textes de plus petite envergure, des recueils de poèmes, quelques éditions critiques, par exemple Sir Gawain et le Chevalier Vert, mais la grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui de l'œuvre de Tolkien, on le doit vraiment au travail inlassable de Christopher, qu'il a mené dès 1975, donc à peine 2 ans après la mort de son père. Il prend sa retraite, d'ailleurs il était lui-même professeur à Oxford, spécialiste des langues nordiques. Il prend sa retraite pour justement publier les œuvres de son père.
Alors Sir Gawain et le Chevalier Vert, vous venez de le citer, c'est l'un des textes majeurs que Tolkien, le père, hein, cette fois-ci, a vraiment contribué à mettre en avant, à populariser. On peut dire que scientifiquement, son apport en matière de littérature médiévale a été décisif.
C'est encore une référence pour l'université britannique, bien sûr, sur 2 textes. Sir Gawain, qui est vraiment l'une des facettes les plus anglaises de la matière dite de Bretagne, donc le cycle arthurien.
C'est le conte du Graal version outre-Manche.
Version anglaise, c'est un texte dont on n'a pas de traces dans la tradition française, par exemple, de la matière arthurienne. Donc ça, le travail sur Sir Gawain est vraiment absolument fondamental. L'autre grand texte qui accompagne Tolkien toute sa vie, c'est le Beowulf, bien sûr, le grand poème anglo-saxon, dont Tolkien fait la première analyse, j'allais dire, strictement littéraire, alors que tous ses prédécesseurs, et parmi eux des linguistes distingués, avait une lecture beaucoup plus positiviste de l'œuvre, allant chercher plutôt les traces historiques, les témoignages de cette civilisation anglo-saxonne. Tolkien va dire non, c'est ce qui est intéressant surtout dans le Beowulf, c'est la poésie, c'est le poème. Et là, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de la tradition du Beowulf encore de nos jours.
Et vous en proposez d'ailleurs une édition assez rare dans l'exposition, édition illustrée par William Morris, hein, c'est ça?
Oui, elle a été éditée par Morris, mais ce qu'on peut ajouter, c'est que le travail de Tolkien se déroule à la fois dans le versant universitaire, dans les conférences, dans les éditions, et dans sa fiction. C'est-à-dire que Beowulf est pour lui un texte de référence dont on va retrouver des traces aussi bien dans Le Hobbit que dans Le Fermier Gilles de Ham, qui est un récit en apparence comique qu'on étudie maintenant aujourd'hui en classe de 5e en France, mais qui a vraiment est susceptible de plusieurs lectures, et dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que la lecture du Beowulf comme un poème, c'est une lecture aussi qui met l'accent sur la dimension existentielle, sur le fait que Beowulf est aussi un symbole de la lutte de l'homme dans le monde qui veut le détruire, qui veut sa peau, et que Beowulf cherche à agir en humain, sachant qu'il est condamné à mourir. Et là, je suis en train de vous citer pratiquement le poème de l'anneau.
Oui, alors il y a aussi des inspirations qu'il va chercher du côté des contes nordiques. Hein. Il ne se concentre pas exclusivement sur la littérature médiévale britannique.
Parmi les trésors que Christopher Tolkien a édités, on peut signaler en 2009 la légende de Sigurd et Gudrun. C'est un texte assez frappant, dont on trouve aussi un manuscrit dans le cadre de l'exposition. Tolkien est frappé à la fin des années 20 par le fait que les nazis commencent à récupérer le versant germanique d'une tradition plus ancienne, via Wagner, via les versants des Nibelungen. Les nazis essaient de récupérer tout un imaginaire qui, pour Tolkien, est un imaginaire européen qui appartient à tout le monde. Que fait-il ? Lui qui connaît la source, parce qu'avec ses amis à Oxford, il lit les textes en langue originale, il propose une traduction, adaptation en anglais moderne de ces légendes. Donc le héros s'appelle Sigurd, l'histoire est très très proche. Et conformément à sa pratique, il range l'œuvre dans un tiroir et elle est exhumée des décennies plus tard par son fils Christopher.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
VMDN avec Frédéric Manfrin et Vincent Ferré, les deux commissaires de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, visible jusqu'au 16 février à la Bibliothèque Nationale de France. Vous plongez d'ailleurs le visiteur au cœur de cette Terre du Milieu. Et ce qui frappe tout de suite, Vincent Ferré, c'est l'importance de la cartographie, l'importance des cartes géographiques. Il y en a vraiment partout dans l'exposition. Certaines d'entre elles d'ailleurs ont été dessinées par Tolkien lui-même. On peut dire que chez Tolkien, la carte, c'est une matrice de son travail de narrateur ?
Tout dépend des textes, mais quand on pense au Seigneur des Anneaux, qui est vraiment un roman monde, Tolkien l'a dit lui-même dans la correspondance qui a été publiée et traduite en français, on a besoin de dessiner une carte pour lancer le récit, pour savoir où le récit va aller. Et c'est là qu'on voit la différence entre le
Hobbit. On pose le décor et ensuite on rentre dans le détail ?
En tout cas, oui, il a mis bout à bout des éléments de carte pour suivre le développement du récit. En tout cas, il y a une différence majeure entre le Hobbit, qui est un récit pour ses enfants, inventé en suivant un modèle qui est celui du conte de fées. Donc un personnage, Bilbo, un petit être humain, part à l'aventure avec des compagnons, des nains, pour retrouver un trésor gardé par un dragon. Raconté comme ça, on sent le conte de fées. Le Seigneur des Anneaux, qui est un récit destiné aux anciens lecteurs du Hobbit devenus grands et à ses amis proches, dont C.S. Lewis, parmi les Inklings, raconte à l'inverse l'histoire d'un groupe de personnages qui va traverser toute la Terre du Milieu pour rapporter là où il a été forgé l'anneau, qui est une arme susceptible de détruire le monde ou de permettre au Seigneur des Anneaux d'étendre sa domination sur le monde. Donc on voit bien la différence même du rôle accordé à l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un voyage, une découverte de lieux que Tolkien ne connaissait pas forcément avant de commencer à écrire le récit.
Mais il décrit beaucoup les paysages, les arbres, les forêts. Il y a toute une section de l'exposition que vous consacrez aux forêts. Il y a les fleuves, il y a les montagnes. Il a une écriture comme ça très descriptive, Tolkien ?
Très visuelle. Donc, comme
il fait du cinéma avant l'adaptation.
On pourrait presque dire cela. En tout cas, il visualise les décors de la Terre du Milieu dans lesquels se déroule l'histoire. Et il enregistre comme un historien ce qui se passe. Il le relate avec autant de précision que possible, mais dans un décor qui, vous l'avez dit, laisse la part belle aux éléments naturels. Et le fait que la forêt joue un rôle tellement important dans Le Seigneur des Anneaux est sans doute à mettre en relation avec le fait que Tolkien est un Anglais né à la fin du 19e siècle, qui, dans sa jeunesse, est passé d'un décor rural près de Birmingham à la ville industrielle, avec ce que ça signifie de pollution, de violence visuelle, sonore, et qui, dans Le Seigneur des Anneaux, célèbre, comme d'autres écrivains visuels ou d'autres artistes visuels ou des écrivains, la beauté de la nature. Donc Le Seigneur des Anneaux est un roman d'aventure, une sorte de roman historique se déroulant dans un monde imaginaire, mais c'est aussi un roman qui, par moments, est très lent. On regarde la pluie tomber à travers la fenêtre.
Est-ce que c'est un romancier écologique, Frédéric Manfrin, je n'ose pas dire écologiste, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme, mais il y a ce souci de la nature, et on le voit notamment justement à travers le comté ou la comté. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de dire pourquoi certains utilisent le masculin et d'autres le féminin, mais il y a cette dimension vraiment écologique, sinon écologiste, très profonde aussi dans ces récits.
Ah mais clairement, c'est-à-dire c'est assez frappant. Alors Vincent vient de rappeler la dimension, le petit garçon qui a grandi à la campagne et qui voit la nature abîmée par l'industrialisation, ça c'est évident. Et on le retrouve dans toute sa vie, dans sa correspondance. On voit Tolkien qui se plaint de l'automobile qui gagne Oxford massivement. Et c'est un combat, enfin, en tout cas une préoccupation qui est permanente chez lui. Et si on prend le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le plus bel exemple, sans doute une des créations les plus originales de Tolkien, c'est cette figure de Lent, ces gardiens des arbres, qui ressemblent même à des arbres, que Tolkien dit dans sa correspondance avoir créés en pensant d'abord à un vieux mot anglo-saxon, on en revient au langue, Enta, qui veut dire géant en anglo-saxon, mais aussi parce qu'il avait toujours eu ce rêve, peut-être petit garçon, de voir des arbres partir en guerre.
Alors, on découvre effectivement toutes ces contrées, donc le comté ou la comté. Alors précisément, Vincent Ferré, expliquez-nous, parce que tout à l'heure vous parliez de Bilbo, pour certains c'est Bilbon, il y a Frodo, pour certains c'est Frodon, et puis il y a le comté, la comté. On est un peu perdu parfois, non, peut-être, dans les noms propres.
C'est très simple, c'est qu'il y a deux traductions. Une première traduction en 1969 pour Le Hobbit par Francis Ledoux, suivi du Seigneur des Anneaux chez Christian Bourgois en 1972-73. Et puis en 2012, Dominique Bourgois a décidé de faire retraduire Le Hobbit par Daniel Lauzon, qui est le traducteur attitré en langue française de la fiction, en suivant cette fois les indications que Tolkien avait laissées à destination des traducteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il connaissait beaucoup de langues européennes. Il a suivi avec grand intérêt la traduction de son œuvre à partir des années, la fin des années 40. Et il a expliqué quel nom devait être traduit, comment et quel nom devait être gardé tel quel. Francis Ledoux a fait certains choix dans la première traduction, celle qui a été utilisée pour le cinéma en 2001. Daniel Lauzon suit les indications de Tolkien, suit les explications de Tolkien, parce que l'idée est à la fois d'accorder plus de fluidité au récit, de faire très attention à la manière différente de parler des personnages. Gollum ne parle pas comme Gandalf ou comme Théoden ou comme Sam, par exemple, sous la plume de Lauzon. Et également de faire sentir dans le texte français ce que Tolkien a réussi à faire en anglais, c'est-à-dire nous faire sentir le fait que les noms de lieux sont aussi des marques de l'histoire. On est en 3018-3019 du troisième âge. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'années avant, dans le monde inventé par Tolkien, avant que commence l'histoire du Seigneur des Anneaux. Les noms de certains lieux dans le récit, les noms de certains personnages ou êtres ou chevaux sont des marques de cette histoire. Et la décision de Daniel Lauzon, c'est simplement la grande fidélité aux indications de Tolkien. Donc dans l'édition de 2014-2016 chez Bourgois, puis passée en poche.
Alors on va entendre justement un extrait du chapitre 1 du Hobbit dans la traduction de Daniel Lauzon, paru, vous l'avez dit, chez Christian Bourgois.
Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non, pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Sa porte, peinte en verre, était parfaitement ronde comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé garni de tapis, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, a des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche, puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambre, salle de bain, cave, garde-manger, nombreux. Penderie, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient toutes à gauche, en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnait sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière.
Voilà, un extrait du chapitre 1 du Hobbit, donc dans la traduction de Daniel Lauzon. Gros travail hein, pour les traducteurs de Tolkien, vous en disiez quelques mots à l'instant. Vincent Ferry, il en a épuisé quelques-uns hein, de traducteurs.
Il y a eu de nombreux traducteurs qui se sont succédés à partir des années 70. Il faut bien voir que Tolkien, inventant un monde, tous les textes doivent s'emboîter comme des pièces d'un puzzle. Et à partir du début des années 2000, les éditions Bourgois, Christian et Dominique Bourgois, ont relancé un programme de traduction pour permettre aux lecteurs français et francophones de découvrir des pans entiers de l'œuvre qu'on ne connaissait pas. Le Tolkien conférencier, le spécialiste des contes de fées, dont les théories ont précédé celles de Bettelheim de plusieurs décennies. Le Tolkien, père de famille, qui invente des lettres du Père Noël, qu'il dépose en se faisant passer pour le Père Noël à chaque jour de Noël. L'inventeur également de Rovarendum et du Hobbit. Mais également l'illustrateur. Et ça, c'est une donnée que l'exposition permet certainement de montrer et de révéler aux visiteurs qui ne connaissent pas forcément très bien Tolkien.
Oui, parce que tous ces lieux-là, Frédéric Manfrin, il les a non seulement décrit par les mots, mais il les a aussi dessinés et peints lui-même.
Oui,
parce Tolkien est aussi bien écrivain qu'artiste, peintre.
Comme Vincent l'a dit tout à l'heure, Tolkien a une écriture qui est très visuelle. C'est un écrivain très visuel. Et il arrive fréquemment dans ses manuscrits, même alors qu'il est en train de raconter l'histoire, de faire un dessin, soit un croquis, mais un dessin qui peut être très abouti, pour visualiser ce qu'il est en train d'écrire. On a l'exemple, par exemple, de l'épisode d'Arène dans Le Seigneur des Anneaux, où Frodo et Sam montent doucement ce col de Ciri Tungol, et Tolkien dessine le col dans le manuscrit. Un peu plus loin.
Donc il y a des correspondances très précises entre les mots et l'image.
Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il précise son texte par le dessin dans le manuscrit. Même s'il sait lui-même que ça ne sera pas publié, lui a besoin, pour écrire, de dessiner. C'est-à-dire que c'est très, très lié. Alors, il ne dessine pas tous les paysages, on n'a pas des représentations de tout. On a d'ailleurs plus de dessins pour le Hobbit que pour le Seigneur des Anneaux, mais n'empêche que pour certains passages cruciaux du Seigneur des Anneaux, Tolkien dessine. Il dessine même la cachette de l'araignée en détail avec les passages.
Et ce sont des dessins qui ont largement inspiré le cinéma aussi, ouais. Vincent Ferré.
La différence entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, elle est là aussi, pas seulement le genre pour les enfants et pour les adultes, mais dans le fait que dans Le Hobbit, Tolkien a adjoint des dessins en noir et blanc ou des aquarelles à la demande de son éditeur. Et puis après la publication du Hobbit, il décide de séparer le texte et l'image et de conserver les images pour lui-même, pour sa production personnelle ou pour ses proches. L'exposition révèle donc des œuvres que le grand public n'a jamais vu parce qu'elles n'ont jamais été publiées et encore moins de son vivant. Donc cette différence absolument fondamentale, et on sait que les deux grands illustrateurs actuels, John Ho et Alan Lee, depuis, on va dire, les années 90, sont connus pour leurs illustrations d'œuvres de Tolkien, les couvertures, mais certaines éditions, ont étudié vraiment avec beaucoup d'attention les œuvres picturales de Tolkien. Celles que, par exemple, on trouve dans Le Hobbit, pour Rivendell, donc Fandval, qui va être également un décor important pour Le Seigneur des Anneaux. Il faut bien voir que dans Le Hobbit, à part la description qui a été lue à l'instant, il y a relativement peu de descriptions de lieux. Donc le texte et l'image se complètent, les images, les aquarelles proposées par Tolkien viennent montrer au lecteur le monde que le texte ne décrit pas beaucoup parce que c'est un récit pour les enfants qui va à l'essentiel d'une certaine manière. John Ho et Alan Lee ont dit à plusieurs reprises leur admiration pour le style de Tolkien, pour sa très grande précision, pour la minutie de son trait, et ils ont parfois repris, transposé certains éléments picturaux en les interprétant à leur manière.
Et puisqu'on en est à l'image, Frédéric Panfrin, il y a aussi des tapisseries hein, qui marquent évidemment le parcours de cette exposition. 4 tapisseries tissées par la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, excusez du peu, et qui sont présentés pour la première fois à Paris.
Tout à fait. Donc 4 sur un. En fait, c'est une toute petite partie d'un programme qui en comportera, une fois terminé, 12 plus un tapis. Donc un grand projet ambitieux et dont l'origine vient d'Aubusson même. C'est-à-dire que c'est un projet que eux portent, ont choisi de porter, ce qui est très intéressant parce que on sait qu'en tapisserie, volontiers, on représente des épopées. Charles Lebrun faisait l'histoire d'Alexandre, et bien au XXIe siècle, si on doit choisir une épopée du XXe siècle, et bien on va choisir Tolkien.
Donc on est dans la prolongation normale de la vision artistique de l'épopée, quoi, donc du grand récit historique et épique.
Tout à fait.
Alors la visualisation était donc absolument essentielle pour Tolkien. Juste on évoquait le Hobbit tout à l'heure. À quoi ça ressemble, Frédéric Manfrin, un Hobbit? Vous pouvez nous le décrire, non pas avec votre pinceau, mais avec vos mots à vous.
Un Hobbit, c'est un humain de petite taille, en gros 1 mètre de haut. Pourquoi Tolkien choisit de représenter ou d'imaginer les Hobbits comme des petites créatures d'un mètre? S'ils sont petits, c'est simplement parce que c'est des créatures avec peu d'imagination et en fait assez mesquines au départ, qui vivent confortablement dans leur comté, un peu protégées sans s'en rendre compte par les peuples qui les entourent. Et donc les hobbits, justement, c'est cette espèce de côté un peu casanier, esprit de clocher, ce qui explique leur petite taille en fait.
Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit.
Bilbon Sacquet, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure.
Je ne peux pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Je suis un Sacquet...
Attendez !
De cul-de-sac.
Bilbon, permettez que je vous présente. Fili, Kili, Ohin, Gloin, Doualin, Balin, Bifur, Beaufur, Bombur, Dori, Nori, Ori et le chef de notre compagnie, Thorin, écu de chêne.
Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, les pins rugissaient vers le ciel haut et fier, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver, rouge le feu sur mille lieues, flambaient les arbres, torches de lumière.
Je ne peux garantir sa sécurité.
Entendu.
Et je ne serai pas responsable de son sort.
Vous aurez quelques histoires à raconter quand vous reviendrez.
Promettez-vous que je reviendrai ?
Non. Et si vous revenez, vous ne serez plus le même.
Je m'appelle Bilbon Sacquet.
Sacquet ? Qu'est-ce qu'un sacquet, mon précieux ?
La bande-annonce du film Le Hobbit, un voyage inattendu, film de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage et Ian McKellen, film sorti en 2012. Le livre de Tolkien, lui, Le Hobbit, date de 1937. Vincent Ferré, le film, celui-ci, mais les films en général, sont-ils extrêmement fidèles de l'œuvre littéraire ? Parce que beaucoup de visiteurs ont aussi les films en tête, peut-être même plus d'ailleurs que les livres.
Alors c'est une question assez complexe et on va effectivement parler des films en général. Il ne faut pas oublier l'adaptation proposée par Ralph Bakshi dans les années 70 qui a été importante pour une génération de lecteurs. Il faut bien voir que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ont fait l'objet de lectures très très variables et parfois contradictoires. Et les films de Jackson dont on parle actuellement sont un moment de la réception de Tolkien, une mise en image, une mise en mouvement plutôt des images proposées par John Howe et Alan Lee. Vraiment le Gandalf, le Bilbo, Aragorn sont sortis des dessins d'Alan Lee et de John Howe. Et on va faire une différence entre Le Seigneur des Anneaux, qui en 2001-2003 a certainement été un tournant dans l'histoire de l'industrie cinématographique, des effets spéciaux, et avec un gros travail sur le scénario par Jackson. Et puis Le Hobbit, qui de la vie générale est une vision par Jackson de l'univers qu'il avait créé pour Le Seigneur des Anneaux et pas vraiment une adaptation du Hobbit. Il ne faut pas oublier que Le Hobbit fait 300 pages et que Jackson l'étire en une nouvelle trilogie de plusieurs heures et c'est un prétexte à développer des Jacksonneries plus qu'à adapter Tolkien.
Alors Le Hobbit, vous posez la question, Frédéric Manfrin dans l'exposition, les Hobbits sont-ils des héros ou des anti-héros ? Est-ce que vous avez votre réponse ? Parce que c'est très bien de poser des questions, mais si on a quelques petits éléments pour y répondre, c'est mieux.
Ce qui est très intéressant avec les Hobbits et même le processus de description des personnages, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les Hobbits, eux, auraient voulu, et c'est un peu rappelé dans l'extrait là, dans les propos de Bilbo, c'est que Bilbo ne cherche pas spécialement l'aventure. Et alors spécialement, là, pour le coup, je vais laisser le Hobbit de côté, je vais prendre le Seigneur des Anneaux. En fait, les Hobbits se trouvent confrontés à une difficulté majeure, cet anneau qu'ils ont entre les mains et dont il faut se débarrasser. Tout ce que Tolkien décrit, c'est un procédé que lui appelle l'ennoblissement, c'est-à-dire que ces petits êtres, faibles, pas très courageux a priori, face à l'adversité, à un péril mortel, eh ben, prennent leur destin entre leurs mains et partent à l'aventure, trouvent des trésors de courage. Donc anti-héros, oui, mais un peu, j'allais dire, comme les soldats de 14, c'est-à-dire que face à la grande histoire, face aux événements, eh ben, ces petits hobbits, anti-héros au départ, gagne en héroïsme au fur et à mesure du récit, justement pour essayer d'aller le plus loin contre ce péril, sans savoir s'ils vont y arriver, et surtout, et c'est très important, en sachant qu'ils risquaient de rentrer changés, voire changer à jamais, de ne plus trouver leur place dans le monde, ce qui finit par arriver à Frodo, puisque de retour en Comté, il se trouve lui-même changé, transformé et un peu inadapté à cet univers.
Alors là, on n'est pas très très loin des gueules cassées. Là, vous parliez à l'instant vous-même de la guerre de 14. On peut dire que la Première Guerre mondiale a profondément marqué le jeune Tolkien jusque dans les pages de ses récits.
Alors ça l'a marqué d'abord visuellement, on y revient, parce qu'il le dit dans sa correspondance, lorsqu'il pense au paysage du Mordor, il voit le champ de bataille de la Somme. Donc une terre ravagée, brûlée, des arbres calcinés, ça il le dit très très clairement. Après, il dit aussi ailleurs dans sa correspondance que la figure de Sam, donc le compagnon de Frodo dans l'aventure, pour lui, Sam, c'est le Tommy, le soldat de base de l'armée britannique qui, justement, trouve ses trésors de courage face à l'adversité. Effectivement, il y a des, je ne peux pas dire des allusions, mais en tout cas son expérience de la guerre qui lui apportait pas mal de choses, à la fois visuellement mais aussi très intérieurement. Il y a cette question de la mort omniprésente, le nombre de camarades d'Oxford qu'il perd pendant la Première Guerre mondiale, quelque chose qui va le marquer profondément.
C'est une des clés de son œuvre, la mort ?
À mon avis, oui, c'est une des grandes clés de lecture de l'œuvre. Et il suffit de voir cette grande question qui anime les échanges entre humains et elfes dans l'univers créé, pas seulement dans Le Seigneur des Anneaux, mais entre les elfes immortels, les hommes mortels. C'est ce débat, cette dialectique entre les mortels et les immortels est une des clés de lecture, à mon avis, du légendaire.
Alors ça, c'est très étonnant, parce que vous expliquez quand même dans l'exposition que Tolkien était issu d'une famille très croyante, hein, très religieuse, très catholique. Mais la religion a une place finalement assez minime dans son univers, dans son imaginaire.
Alors là encore, tout dépend des œuvres considérées. Donc pour la Première Guerre mondiale, il faut aussi souligner le fait qu'avant la guerre, Tolkien est avant tout poète. Et que lorsqu'il rentre du front, il est rapatrié parce qu'il tombe gravement malade pendant la bataille de la Somme. Il passe à la prose, c'est-à-dire qu'il dicte à sa femme Edith ce qu'il va appeler les contes perdus. Et dont certains, comme la chute de Gondoline, sont une représentation directe des combats, avec des monstres qui font penser aux machines de guerre.
Alors sur la religion.
Ouais, la question de la religion, c'est une des choses les plus connues dès qu'on commence à étudier Tolkien, c'est le lien entre son œuvre et sa foi. J'ai l'impression qu'il y a un consensus actuellement sur le fait que la foi de Tolkien est une chose très personnelle chez lui, dont il parle avec beaucoup de passion dans ses lettres à ses proches, à ses enfants en particulier. Mais explicitement, il a fait le choix dans Le Seigneur des Anneaux de laisser la religion à l'arrière-plan. Ne serait-ce que parce que l'histoire est censée se dérouler des milliers d'années avant notre ère. D'accord ? Mais aussi parce qu'on est dans un monde qui se situe des milliers d'années après la création racontée dans le Silmarillion par un dieu unique. Donc la religion est très présente dans le Silmarillion. Il y a même des divinités créatrices ou des anges, ils les appellent de diverses manières. Elle est aussi extrêmement présente dans la conception que Tolkien se fait de la littérature, puisqu'il explique que l'écrivain est celui qui crée un monde en littérature, par exemple, à partir du monde créé par Dieu. Donc la foi est une donnée de départ, mais après il décide de la rendre plus ou moins visible, et plutôt moins dans Le Seigneur des Anneaux que dans le Silmarillion.
La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché ? Est-il en sûreté ? Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de secondes ténèbres. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui.
Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas ?
Répondez, Gandalf.
Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui.
On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut.
L'anneau doit être détruit.
L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit.
Je sais ce que je dois faire. Seulement, j'ai peur de le faire.
On n'entre pas si facilement en Mordor.
Il n'y a pas d'autre moyen. Là en bas, il y a quelque chose.
Mon précieux.
Ah. Êtes-vous effrayé?
Oui.
Pas assez, apparemment.
Voilà, la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, hein, le premier volet de la trilogie qui est d'ailleurs entré dans la légende et qui a peut-être tendance à écraser un petit peu tout le reste. Mais l'un des grands mérites de l'exposition, c'est justement de voir tout ce qu'il y a autour et tout ce qui a permis aussi d'y arriver. Parce que l'exposition, Frédéric Monfrin insiste aussi beaucoup sur les grandes sources d'inspiration de l'œuvre. On a déjà tracé quelques grands traits depuis le début de cette émission. Mais vous le faites aussi à travers des objets, ce que vous appelez, je crois, les pièces de contextualisation. Alors, il y a des tableaux, des gravures, des objets qui ne sont pas directement reliés à Tolkien, mais qui résonnent avec son œuvre. Comment ces pièces-là ont été choisies ? Il y a des armes aussi, il y a un corps de Roland que vous conservez d'ailleurs à la BNF.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que autant les petits Britanniques lisent Tolkien depuis leur enfance, donc connaissent très bien cet univers, autant le public français le connaît peu ou mal, ou justement uniquement à travers les films de Jackson. Ce qu'il était absolument important pour nous, c'est de présenter dans l'exposition des pièces qui sont toutes antérieures ou contemporaines de Tolkien, des objets qui soit ont constitué son univers culturel quand il était jeune, peintre pré-raphaélite, Art Nouveau, enfin tout ce avec quoi il a grandi, mais aussi les grandes sources possibles de ses goûts littéraires à lui. Donc mythologie nordique, on en a parlé, mais Dante, mais Homère, mais évidemment les manuscrits médiévaux. Il était aussi important pour nous de présenter des armes médiévales. Pourquoi ? Parce que toute la postérité de Tolkien, toute cette pop culture, ce monde de la fantasy a un peu tendance à, caricaturer ces armes médiévales. Une épée médiévale, une vraie épée médiévale, elle fait 2 kilos, pas 25. Et sinon, le combat d'Eowyn avec le Nazgûl est invraisemblable. Or, chez Tolkien, il y a aussi ce souci permanent de la vraisemblance. Et donc, c'est important de montrer à quoi ressemble vraiment une épée, là, en l'occurrence, scandinave du Xe siècle.
La vraisemblance, sans pour autant avoir l'historicité. C'est ça aussi qui en fait à la fois l'intérêt et la difficulté de la compréhension de l'œuvre, Frédéric Monfrin, parce que ce monde de Tolkien, cette terre du milieu, elle ressemble quand même un petit peu à l'Angleterre médiévale, vous trouvez pas ?
Tolkien dit lui-même qu'en fait, cette terre du milieu, ça pourrait être l'Europe de l'Ouest à des temps très reculés.
Donc c'est vague.
Ah mais justement, c'est tout l'intérêt de la fantasy aussi, c'est de dire que c'est dans un passé lointain, mais sans le préciser. Donc on a fait le choix, nous en tout cas dans l'exposition, de présenter des pièces qui vont de l'Antiquité jusqu'en gros aux années 20-30, parce que justement ce monde imaginaire peut mêler et... D'ailleurs, Tolkien nous laisse un peu cette liberté, ce choix de l'imaginaire, cette possibilité de l'imaginaire. Autant Tolkien est extrêmement précis dans les paysages qu'il décrit. Ça, il est. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'artiste qui parle, c'est très graphique. Autant il le dit lui-même, pour ce qui est des costumes de mes personnages, des objets de leur quotidien, j'ai pas d'imagination pour ça. Ce qui veut dire que pour le lecteur, et pour nous y compris, commissaire de l'exposition, on a évidemment nos images qui viennent parler. Et pour nous, l'enjeu, c'était de laisser de côté les images que tout le monde a vues, que tout le monde peut voir facilement, et d'amener des images des temps passés pour se créer son propre imaginaire.
Et peut-être aussi, justement, de bousculer un petit peu le visiteur. Par exemple, on entend souvent dire, Vincent Ferré, que les femmes chez Tolkien sont un petit peu laissées de côté. Là aussi, vous essayez de faire litière de tout cela. Elles sont pas très nombreuses, mais les rôles qu'on leur confère sont quand même assez importants.
Il y a toute une série de questions auxquelles l'exposition se devait de répondre.
Il y a plein de panneaux comme ça transversaux.
Mais oui, parce que, par exemple, lorsqu'on fait des rencontres pour présenter Tolkien, il y a des fois des lecteurs qui nous expliquent que ça leur fait beaucoup penser à Wagner. Et est-ce que Tolkien n'a pas tout repris Wagner ? On leur explique que non, c'est l'inverse en fait, que Wagner et Tolkien ont une source commune, mais que Tolkien connaît vraiment bien la source, lui. Donc dans le cas des femmes, il faut vraiment très rapidement dire que Tolkien s'inspire de modèles médiévaux dans lesquels les femmes ne jouent pas de rôle important. Il faut penser au rôle des reines dans le cycle arthurien, au rôle des femmes dans la chanson de Roland par exemple, ou chez Beowulf, dans Beowulf. Bon. Mais Tolkien décide malgré tout, tout à l'heure Éowyn a été mentionnée, mais on peut aussi parler de Lucienne dans le Silmarillion, qui est le plus grand des héros de Tolkien, mais c'est une femme. Donc c'est la plus grande héroïne, et il a choisi de lui faire accomplir un exploit qu'aucun homme n'est capable d'accomplir.
Voilà, une exposition extrêmement riche, très érudite, on l'a compris, pour les fans et pour ceux qui voudraient tout simplement découvrir le monde ou les mondes de Tolkien. Tolkien, voyage en terre du milieu, exposition donc à découvrir, je le rappelle, à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, François Mitterrand. C'est jusqu'au 16 février, Vincent Ferré et Frédéric Monfrin. Je vous remercie.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles ? sur RFI.
Partir loin de chez soi, quitter ses repères et devoir tout recommencer, c'est ce que raconte la pièce Thermacadam qui se joue en ce moment et jusqu'au 11 janvier 2020 au théâtre de l'Essaillon à Paris. La comédienne Lou Lefebvre et sa metteuse en scène Élise Maître nous racontent l'histoire de Boubou, une petite fille de 8 ans qui déménage avec ses parents en direction l'Afrique, une histoire qui rappelle beaucoup celle de la comédienne elle-même, Margot Turgy.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Conakry.
Le 28 décembre 1998, Lou Lefebvre atterrit en Guinée. Elle vient de quitter Choisy-le-Roi en région parisienne. Dans la tête de cette petite fille de 8 ans, un mélange de peur et d'a priori.
Je pensais que j'allais être triste, comme c'était un pays pauvre par définition de l'IDH.
Guinée, 184 sur 188 pays.
Donc par définition, c'est un pays pauvre, donc c'est un pays triste. En fait, c'était ça un peu mon raccourci. Et tous les a priori découlaient de cette idée.
Quand j'arriverai à l'école, bah, j'aurai pas de copine. Je serai assise toute seule au fond de la classe. Et eux, ils me traiteront de débile. Puis je pourrai pas m'enfuir. Parce que on n'aura pas de voiture. Parce qu'il n'y a pas de voiture là-bas. Et puis on sera sale. Parce qu'on n'aura pas de couvert. On mangera avec nos doigts. Alors on aura de la terre et du sable partout, jusque dans nos dents. Y penser, ça me fait mal à la tête.
Petit à petit, Lou Lefebvre, alias Boubou, le vrai surnom donné par ses parents, se fait à sa nouvelle vie. D'abord grâce à Moïse, son chauffeur, qui l'emmène à la piscine.
La piscine de l'hôtel Mariador Palace. Elle est immense. C'est le seul endroit où je pleure pas.
À travers Moïse, Lou Lefebvre aborde aussi la thématique de la mort.
Alors, ils ont tourné à droite. Un buffle ! Et là, bim ! Il y a eu un accident.
J'avais envie de parler du rapport à la mort, le rapport au temps, aux gens aussi. Mais là, dans l'histoire de Moïse, c'est le rapport à la mort et le rapport aussi à la vie, puisque ça va ensemble. Et en fait, j'avais vraiment envie d'expliquer avec une histoire concrète pourquoi c'était différent, comment c'était différent et comment là-bas on vivait la mort au quotidien et comment on se relevait de ça aussi au quotidien.
Mais pas évident de parler de ce sujet lourd à des enfants européens qui n'ont pas le même rapport à la mort. Il a donc fallu trouver une astuce, la metteuse en scène Élise Maître.
On a fait appel à des dessins qu'elle peut manipuler et au moment de la mort du personnage en question qu'elle peut froisser et jeter à l'autre bout de la pièce avec la facilité qu'aurait un enfant à dire « C'est fini !»
Avec cette pièce, Lou Lefebvre veut donner à voir l'Afrique, habits, bijoux, langues, mais aussi proverbes et accents, sans oublier un passage par la case du marabout.
« Tu vas donner une calebasse de lait à ton gardien. Tu peux quitter. Je vous paye, c'est 70 000 francs guinéens, 7,50 euros. » Pour arrêter de pleurer.
Thermacadam, c'est finalement une déclaration d'amour à l'Afrique.
Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je suis constituée d'énormément de choses africaines, parce que j'ai grandi là-bas à des âges où on se constitue. Et donc, forcément, c'est une énorme partie de ma vie, même si ça se voit pas sur mon visage, parce que je suis blanche. Mais pourtant, je pense que j'ai quand même quelques formes africaines, en fait.
À l'aéroport, cette fois, mon grand frère ne pleure pas. Et moi non plus. Ça y est! On rentre à la maison.
Après 5 ans passés en Guinée, Lou Lefebvre a aussi vécu au Mali. Elle espère un jour y retourner, pourquoi pas pour jouer Thermacadam.
Reportage de Margot Turgy pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour évoquer une bande dessinée cette fois. Le premier tome d'une tétralogie, Le Château des Animaux, qui vient de sortir aux éditions Casterman. Avec nous, le dessinateur Félix Delep et le scénariste Xavier Dorizon. Et vous m'en direz des nouvelles.
Faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Priorité santé.